Midi passé de 17 minutes, merci de nous rejoindre sur le 95.9 de Radio Collège, intramuros spécial puisque nous sommes en direct du FIFAV, le Festival International du Film et du Livre d'Aventure de La Rochelle, 22e édition, c'est devenu un rendez-vous incontournable et en tout cas un grand, grand moment de partage et d'aventure à La Rochelle. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Radio Collège Corentin de Châtel-Perron. Bonjour.
Bonjour.
C'est un très grand plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur le studio de Radio Collège. On s'était rencontrés en 2021 pour votre film 4 mois pour Biosphère. Et ça va être l'occasion aujourd'hui de remettre le travail sur l'ouvrage, enfin l'ouvrage sur le travail, je ne sais plus comment on dit.
De rebosser.
Voilà, en gros, et surtout de redonner cette fabuleuse idée que le monde peut changer et qu'on peut faire évoluer les choses pour, parce qu'on est obligé, quelque part. Alors, vous êtes un adepte de ce qu'on appelle l'ingénierie, mais low-tech. Pour nos auditeurs, comment on pourrait définir ce que c'est que le low-tech ? L-O-W.
Alors, ouais, à la différence avec les high-tech. Donc, c'est que des technologies où ça peut être quelquefois des savoir-faire qui répondent à trois critères. C'est utile, accessible et durable. Utile, dans ça, on entend tout ce qui répond à des besoins de base. Accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, etc. Accessible parce que ça doit être accessible financièrement et aussi réparable ou fabricable un peu partout dans le monde. Et durable, respectueux des humains et de la planète.
Alors vous avez une formation d'ingénieur, mais comment d'un ingénieur qu'on imagine poussé vers le plus grand, le plus beau, le plus ingénieux, le plus efficace, on s'intéresse finalement à de la low-tech ?
Eh bien, justement, ce que vous commenciez à dire, là, le plus beau, le plus ingénieux, le plus efficace, pour moi, c'est low-tech. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai vraiment découvert cette notion quand je vivais au Bangladesh, où vraiment, ils doivent, sous la contrainte, faire mieux avec moins. Cet esprit de faire avec les moyens du bord pour répondre à ses besoins de base. C'est aussi ce qu'on fait quand on fait du bateau, par exemple. On doit faire avec les moyens du bord. Et en général, ça amène à des solutions qui sont hyper ingénieuses et hyper performantes, en fait, parce qu'avec le minimum, on essaye de faire le maximum.
Et c'est pour ça que vous vous êtes dit, tiens, il existe tellement, tellement de choses à découvrir dans ce domaine-là que vous avez choisi d'aller compiler à travers le monde toutes ces énergies, toutes ces compétences.
Oui, ça a été mon principal métier, ma principale mission depuis maintenant plus de 10 ans, depuis 2013. J'ai monté une association qui s'appelle le Low-Tech Lab et dont le but, c'est d'aller un peu partout autour du monde, trouver, et notamment j'étais sur un bateau laboratoire qui s'appelait Nomade des Mers pendant 6 ans, pour trouver des gens qui inventent des solutions low-tech pour pouvoir les tester à bord du bateau, les documenter, faire des tutoriels et ensuite les faire connaître pour que d'autres puissent les répliquer.
Alors justement, quel était votre processus intellectuel pour se lancer dans cette recherche ? C'est simplement pour être utile à d'autres techniciens ou alors être utile à la population en général ou véritablement aussi pour pouvoir adapter ces technologies low-tech à l'industrie ?
Alors, à la base, je dirais que c'était beaucoup pour aider à des gens qui ont des problèmes à répondre à leurs besoins de base. Quelqu'un, une population qui a des problèmes d'accès à l'eau, à l'énergie, recycler ses déchets, etc. Je me disais, c'est génial si on peut trouver des bonnes idées de gens qui ont réussi quelque part dans le monde face à ces contraintes-là et diffuser ces connaissances pour aider les autres, en fait, qu'il y ait une espèce d'énorme réseau d'entraide sur toutes ces solutions ingénieuses autour du monde. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi toutes ces solutions-là, c'est aussi une super manière de réinventer notre manière d'habiter sur cette planète. Et on est à une époque où il faut justement repenser nos modes de vie, en fait, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme aujourd'hui. Et en fait, ça m'a montré toutes ces solutions-là qu'on pouvait vivre mieux, en fait, faire mieux avec moins. Et du coup, maintenant, c'est devenu aussi quelque chose qui peut s'appliquer à nos quotidiens en France, par exemple.
Alors justement, vous présentez aujourd'hui un film qui illustre votre nouvelle expérience. Ça s'appelle « L'appart du futur, bienvenue dans la biosphère urbaine ». Il faut dire que les biosphères précédentes, elles étaient dans des situations différentes, la mer, le désert. Là, maintenant, vous êtes de plein pied dans la ville.
Ben bah ouais, en fait, donc on a fait des expériences sur bateau, dans le désert, sur une plateforme flottante, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit quand même, il y a un humain sur deux aujourd'hui sur la planète qui vit en ville. Donc voyons ce que ça pourrait donner en ville.
C'était
donc
votre objectif final, quelque part de...
Alors, je n'ai pas terminé ma carrière.
Non, mais en disant que finalement, l'utilité... où ça va être le plus utile, quelque part, c'est dans la ville, parce qu'il y a le plus de monde en ville.
Disons que dans la démarche, on essaye de faire des expériences dans des contextes très différents, parce qu'à chaque fois, une expérience dans un certain contexte, ça nous oblige à adapter ces innovations qu'on a trouvées un peu partout autour du monde à ce contexte-là. Et c'était, par exemple, hyper intéressant d'appliquer au désert, parce que dans le désert, il y a très peu d'eau, beaucoup de soleil, donc on a vu comment est-ce qu'on pouvait vivre avec très peu de ressources dans le désert. Et la contrainte de la ville, elle nous intéressait beaucoup, parce que vivre en ville, là, c'était en région parisienne, en fait, c'est hyper galère, parce que il fait hyper froid l'hiver, il fait hyper chaud l'été, on vit dans une espèce de boîte, donc il y a assez peu d'accès au soleil, il y a plein de gens autour, etc. Et ces contraintes-là, il y a des millions de personnes, des milliards de personnes même qui la vivent. Et du coup, on s'est dit, ben, faisons cette expérience dans ce milieu-là pour voir comment est-ce que des gens qui vivent dans des milieux urbains pourraient vivre plus low-tech.
Alors, quels seraient les éléments les plus simples à mettre en œuvre par rapport à votre bilan sur ce projet-là?
Bah alors, il faut peut-être décrire un peu ce à quoi on est arrivé. Dans cet appartement, nous, on a essayé d'appliquer notre concept qui est vraiment venu au fil des années de recherche sur les low-tech, c'est l'habitat écosystème. Un habitat écosystème, ça veut dire qu'on vit avec d'autres espèces vivantes, des champignons, des bactéries, des plantes, des insectes, et que les déchets de chaque être vivant dans l'habitat va servir de ressource à l'autre, comme dans la nature en fait, mais sauf qu'on le réplique.
On fait un biotope, quoi.
Ouais, voilà. On fait. C'est pour ça qu'on l'appelait une biosphère, c'est que c'est vraiment un écosystème où les différentes espèces vivantes ont des synergies, ouais. Et donc on a mis ça dans l'appartement. Donc par exemple, quand on prenait notre douche, c'était une douche brumisante qui en même temps brumisait des champignons. Donc on avait une culture de champignons comestibles dans la douche. Et puis ensuite l'eau s'écoulait par des bactéries qui mangeaient les matières organiques contenues dans l'eau de la douche et allaient ensuite alimenter des plantes qui étaient comestibles, qui étaient dans la cuisine. Il y avait 5 mètres carrés de plantation. Donc quand on mangeait, on piochait directement, on cueillait directement les feuilles de basilic, de coriandre, de ciboulette, etc. Et en fait, on a repensé tout l'appartement comme un écosystème. On avait 4 mètres carrés de panneaux solaires qui alimentaient le système de cuisson, tout ce qui consommait de l'électricité dans l'appartement. Et donc dans tout ça, il y a plein de solutions qu'on peut faire dès aujourd'hui dans nos logements. Alors laquelle est la plus simple? Moi je dirais le plus simple, c'est de commencer par les trucs qui nous plaisent le plus. Si vous êtes fan de champignons, et ben faire pousser des champignons, c'est un truc passionnant dans un appartement. Et alors aussi pour répondre à cette question là, on a organisé tout un programme de sciences participatives où on a proposé à des gens de faire ça chez eux et pour voir justement ce qui était difficile, pas facile, etc. et comment améliorer chaque système. Et on a eu plus de 1500 candidatures de gens qui voulaient tester des trucs chez eux, dont pas mal d'ailleurs de classes, des collégiens et tout ça qui ont participé. Et alors on a vu que la culture de plantes, de champignons, le régime alimentaire qu'on proposait, low-tech, etc., ça a bien pris et c'est assez facile à mettre en place.
Alors finalement, vous souhaitez que les gens aient cette démarche intellectuelle de tester les différents éléments possibles d'amélioration dans son propre... habitat.
L'idée c'est que nous on teste, on fait des tutoriels, on présente sous forme, là on a fait une série pour Arte, j'ai écrit un bouquin aussi et tout un tas de tutoriels pour accompagner les gens à faire ça chez eux ensuite.
Vous avez fait des bilans techniques, sociaux, écologiques, sociétaux?
Ouais, en fait, on s'est donné des objectifs au début du projet. On voulait atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire pas émettre plus de 2 tonnes équivalent carbone grâce à ce mode de vie par personne et par an. On voulait diviser par 10 la consommation d'eau, par 15 la consommation d'énergie. On voulait que ce soit zéro déchet, que ça ne génère pas de déchets, que ce soit bon pour la santé et que ce soit désirable. Et donc en face de chacun de ces objectifs-là, grâce à tout un tas de scientifiques, on a mis en place des protocoles pour mesurer, voir si on y arrivait ou pas. Et donc c'était hyper intéressant. Alors il y en a où on a réussi haut la main, par exemple la consommation en eau ou en électricité, ça c'était pas trop difficile. Mais par contre l'impact carbone, ça c'était vraiment, vraiment difficile. En fait c'est très difficile aujourd'hui de faire en sorte que la planète se réchauffe pas et que le climat ne change pas.
Je vais être un peu taquin, qu'est-ce que vous pensez du principe de décroissance? Est-ce qu'il faut forcément entrer dans ce modèle-là?
Alors moi, je dirais que je suis à fond pour la croissance, mais sous d'autres indicateurs que ce qu'on appelle la croissance aujourd'hui. Donc j'appelle pas ça de la décroissance, je trouve ça négatif le terme décroissance. Je trouve que c'est de la croissance, sauf que à mon avis, il faut qu'on intègre dans la notion de croissance, comme il faut intégrer dans la notion de progrès, des valeurs sur la justice sociale, sur l'écologie, sur le bien-être, la santé mentale et la santé physique, etc. Et si on combine tous ces paramètres-là, tous ces indicateurs, et qu'on appelle ça de la croissance, alors là, c'est une croissance de dingue qu'on propose.
C'est clair. Alors ce soir, vous présentez l'appart du futur. Bienvenue dans la biosphère urbaine. Vous avez déjà fait une mini rétrospective lundi avec la projection de vos trois précédents films. La relation au public, elle est hyper importante. Il faut absolument motiver. Quels sont les retours des gens que vous voyez? Est-ce qu'ils ne vous prennent pas pour un simple petit bricoleur qui s'amuse à faire? Est-ce qu'ils sont véritablement... est-ce qu'ils veulent vraiment se donner les moyens d'entrer dans cette démarche-là?
Eh ben ouais, je vois, en fait, c'est aussi pour ça que c'est un plaisir de revenir à La Rochelle régulièrement depuis maintenant 15 ans. C'était la première fois que je suis venu, c'était il y a 15 ans. En fait, les gens s'intéressent à cette démarche-là. Je crois que c'est une question très actuelle de réfléchir à quel sera notre futur, comment est-ce que les humains vont habiter la planète dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, quel mode de vie on devrait avoir. Et donc, ça fait plus de 10 ans que je fais des recherches finalement là-dedans, sur cette question-là. Et même si quelquefois j'avance par essai-erreur, il y a des trucs qui sont pas très motivants, pas très convaincants, mais il y en a d'autres si. En tout cas, cette démarche, cette quête, elle intéresse beaucoup de gens.
Vos prochaines expérimentations, vous avez déjà réfléchi avec votre équipe sur ce que vous aviez envie de faire?
Ah ben, on a plein d'idées. On voit que vraiment, il y a tout un champ de trucs à explorer, à tester. Là, on va repartir pour une phase d'exploration pour trouver des nouvelles idées de low-tech pour que la prochaine expérience, elle soit encore plus réussie.
Merci beaucoup, en tout cas, Corentin Châtel-Perron, d'être venu nous présenter votre film.
Merci.
Je rappelle, c'est ce soir, l'appart du futur. Bienvenue dans la biosphère urbaine. Alors, c'est
à
complet.
13h30.
C'est complet.
Ah, c'est complet, c'est une bonne nouvelle aussi.
c'est aussi la particularité du festival du FIFAF de La Rochelle. Ça a tellement de succès que les séances sont vite complètes. Mais on peut peut-être rappeler la série qui va avoir lieu sur Arte.
Oui, alors ça s'appelle L'appart du futur. C'est en ligne sur arte.tv.
Et, déjà accessible?
Ouais, c'est accessible. Il y a aussi le site internet biosphère-experience.org où il y a tous nos tutoriels, donc toute la description de l'appartement du futur. Et il y a le livre aussi, l'appartement du futur, aux éditions Actes Sud et Arte Édition.
Donc il ne tient qu'à chacun d'entre nous de prendre en main tous ces éléments. Et
Tout le monde peut vivre dès aujourd'hui dans ce futur.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Radio Collège, Corentin de Châtel-Perron. Et puis on mettra bien sûr le podcast de cette rencontre sur le site de Radio Collège et toutes les références vers votre site internet. Low-Tech Lab, pardon. Le Low-Tech Lab et puis toutes les indications vers les films et sur Arte à voir absolument et à se saisir donc absolument pour imaginer un monde meilleur.